Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 août 2014. Nous sommes en direct de Washington avec vous ce soir, Morgane Guiriec et Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, quatre pays ouest-africains en état d'urgence sanitaire. La Guinée l'a instauré hier soir.
Il est très important de décréter un état d'urgence, mais je pense bien qu'ils ont retardé d'abord. Ils devraient décréter l'état d'urgence avant les autres pays.
Investiture du nouveau Premier ministre centrafricain à Bangui ce jeudi.
La cybercriminalité à la une ce soir, nous parlerons du cas ivoirien.
Ce sont des jeunes qui vont trouver des stratagèmes en créant des faux profils et qui vont entrer en relation amoureuse avec leurs victimes, puis de là vont naître les différents abus.
Retour aussi sur la cinquième nuit de violence à Ferguson, dans le Missouri, après la mort d'un jeune noir américain abattu par la police. Barack Obama a de nouveau appelé au calme.
Sans oublier les sports, en fin d'émission avec Bagassi Koura, mais tout d'abord, le journal.
Et l'épidémie d'Ebola se propage, on compte désormais 4 morts au Nigeria. 4 pays ouest-africains sont en état d'urgence sanitaire après la décision la nuit dernière de la Guinée d'y recourir. Sur le terrain, cela signifie que les mouvements de personnes sont restreints et soumis à des mesures de contrôle sanitaire. Le point avec Nathalie Barge.
Dans sa dernière mise à jour publiée mercredi, l'Organisation mondiale de la santé indique que 1069 personnes sont mortes du virus Ebola en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. D'après le ministre nigérian de la Santé, Onyebuchi Chukwu, 11 personnes sont atteintes de la fièvre hémorragique Ebola au Nigeria. Les autorités nigérianes craignent qu'une infirmière qui a été en contact avec un malade n'ait transmis le virus lors d'un déplacement à Enugu, dans l'est du pays. Elle a été transférée à Lagos pour y être soignée. Le président Goodluck Jonathan a annoncé que les établissements scolaires resteront fermés à Lagos à la rentrée des classes tant que la menace d'Ebola sera présente. D'autre part, la compagnie aérienne Korean Airlines a annoncé l'arrêt temporaire de ses vols entre Nairobi et la Corée du Sud. Aucun cas d'Ebola n'a été signalé au Kenya, mais l'OMS a classé ce pays comme zone à risque en raison de son rôle de plaque tournante du transport aérien.
Et j'ajoute que les familles du personnel diplomatique américain vont être évacuées de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Ce pays est l'un des plus touchés par l'épidémie d'Ebola. C'est ce qu'indique le département d'État américain.
Nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Selon un responsable de la gendarmerie camerounaise interrogé par l'AFP, 3 soldats camerounais ont été blessés ce jeudi dans une embuscade à un poste frontière de la localité de Banderi, un village situé à 4 km du Nigeria.
En Centrafrique, le nouveau Premier ministre de la Transition a été officiellement investi dans ses fonctions ce jeudi, en début de soirée. Mahamat Kamoun a promis qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières à la primature. Le point avec Lionel Gaïma.
La passation de pouvoir annoncée dans la matinée s'est finalement faite en début de soirée. L'ex-chef du gouvernement André Zapayeke a fait ses adieux à son ancienne équipe tout en indiquant les avoir laissés dans des bonnes mains. Le nouveau locataire de la primature a pour sa part assuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, Mahamat Kamoun.
J'ai la ferme intention de poursuivre sur cette voie de rétablissement de la paix et de la sécurité. Pour ce faire, je sais pouvoir compter sur la disponibilité de toute l'équipe de la primature. Je tiens à rassurer les uns et les autres que dans ce contexte de réconciliation entre les filles et les fils de ce pays, il n'y aura pas de chasse aux sorcières.
Signalons qu'André Zapayeke a été élevé quelques heures plus tôt à titre exceptionnel à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite centrafricain par la présidente Catherine Samba-Panza. Par ailleurs, la tension a été vive cet après-midi à la sortie du nord de Bangui. Un violent accrochage a opposé des anti-Balaka à des ex-Seleka basés au camp militaire RDOT. Des armes lourdes et légères ont crépité pendant plusieurs heures.
À Kinshasa, on reparle de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le procès des assassins présumés du défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur aura lieu le 29 août prochain devant la Cour suprême. Bagassi Koura.
C'est la voix des Sans Voix, l'organisation fondée par Chebeya lui-même, qui a fait cette annonce ce jeudi. En mai 2013, l'ONG avait saisi la haute cour congolaise devant les lenteurs de la justice dans cette affaire. Plus de 4 ans après les faits, les proches de Chebeya réclament toujours que justice soit faite. Au soir du 1er juin 2010, Floribert Chebeya, militant des droits de l'homme, a rendez-vous avec le général John Numbi, chef de la police de Kinshasa. Le gradé dément cet entretien, mais le lendemain, Chebeya a été retrouvé mort dans sa voiture et jusque-là, le corps de son chauffeur, Fidèle Bazana, est resté introuvable. En première instance, devant la cour de justice militaire, le colonel Daniel Mukalai et 3 autres policiers avaient été condamnés à la peine de mort, 1 policier avait été condamné à la perpétuité et 3 autres accusés avaient été acquittés. Un procès en appel devant la juridiction militaire a ensuite été ouvert.
Toujours en République démocratique du Congo, l'ancien grand chef milicien Yves Kawa a été condamné hier à 9 ans de prison. La cour militaire de Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité entre 2002 et 2004 dans le nord-est du pays. Il était l'un des principaux chefs de guerre en Ituri, qui a été le théâtre de violences intercommunautaires. Yves Kawa devrait cependant être prochainement libéré puisqu'il a déjà passé 9 ans derrière les barreaux. Âgé 39 ans, il a également été condamné à payer 85 000 $ de dommages et intérêts aux victimes.
Autre actualité congolaise, 6 personnes d'une même famille ont été assassinées à Moutaroulé, dans le sud Kivu. La MONUSCO rappelle qu'en juin dernier, dans cette localité près de la frontière burundaise, a eu lieu un massacre à l'encontre des Bafuliro, ayant fait plus de 30 morts. Les casques bleus de la MONUSCO ont été placés en état d'alerte.
Au Mali, les négociations de paix entre le gouvernement et les groupes armés sont reportées. Initialement prévues le 17 août, les discussions reprendront le 1er septembre à Alger, annonce le ministère algérien des Affaires étrangères.
Aucune trace de la veuve blanche au Kenya. La police a admis avoir totalement perdu de vue la Britannique Samantha Lethwaite, recherchée pour un projet d'attentat en 2011 au Kenya. Suspectée de liens avec Al-Shabaab, son nom avait refait surface en 2013 suite à l'attaque d'un centre commercial à Nairobi. Nous avons tenté de l'arrêter, mais elle ne cesse de changer d'identité et d'endroit, a expliqué un des policiers responsables de l'enquête cité par l'AFP.
Sachez aussi qu'au Maroc, le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement d'une cellule chargée de recruter des djihadistes pour l'État islamique en Syrie et en Irak. Les membres de ce réseau s'apprêtaient aussi à planifier l'exécution d'actes terroristes à l'intérieur du royaume, soulignent les autorités. Le Maroc fait face au retour d'islamistes marocains ayant combattu en Syrie, où ils seraient plus d'un millier.
Et on reste au royaume chérifien. Environ 250 nouveaux migrants d'Afrique subsaharienne ont tenté de franchir la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla. Hier, environ 600 migrants avaient tenté de passer la triple barrière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole Melilla.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, aux États-Unis, 5e nuit de violence hier à Ferguson, cette localité du Missouri, où un jeune Africain-Américain est mort abattu par la police. Le FBI a ouvert une enquête et tout à l'heure, Barack Obama a de nouveau appelé au calme. Sarah Diaby.
Le président Obama, lors d'une conférence de presse, a appelé au calme et à la retenue. J'ai demandé au ministre de la Justice de faire tout ce qui est nécessaire pour déterminer ce qui s'est passé et que justice soit rendue, a déclaré Obama. Depuis la mort de Michael Brown samedi dernier, la communauté noire de Ferguson proteste violemment. L'adolescent de 18 ans non armé a été abattu par un policier. La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes et fumigènes mercredi soir sur des centaines de manifestants. Plusieurs personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations. La police de Ferguson affirme que le jeune homme a été tué après avoir agressé un policier, mais des témoins déclarent que l'adolescent a été abattu alors qu'il avait les mains en l'air.
Le président américain qui s'est aussi exprimé sur les opérations en Irak. Selon M. Obama, les États-Unis sont parvenus à briser le siège des djihadistes de l'État islamique sur le mont Sinjar. M. Obama a précisé que l'armée américaine allait poursuivre ses frappes aériennes contre l'État islamique près du Kurdistan irakien.
En Ukraine, l'armée a repris le contrôle de la route entre le bastion insurgé de Lugansk et la frontière russe, coupant ainsi l'itinéraire qui est censé emprunter le convoi humanitaire envoyé par Moscou à destination de la ville de l'est de l'Ukraine. Face à la progression de l'armée ukrainienne et des combats de plus en plus meurtriers, jusque dans le centre de Donetsk, 2 chefs rebelles, dont Igor Strelkov, ont donné jeudi leur démission. Aujourd'hui, la Russie appelle à un cessez-le-feu urgent.
En Égypte, au moins 3 personnes ont été tuées ce jeudi au Caire, en marge de manifestations des partisans du président déchu Mohamed Morsi. Ces marches commémorent le premier anniversaire de la répression sanglante des rassemblements islamistes. Le 14 août 2013, les forces de sécurité égyptiennes avaient mis fin dans le sang à 2 sit-ins, faisant plus de 700 morts, selon un bilan officiel.
Et puis au Proche-Orient, malgré quelques échanges de tirs la nuit dernière, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semble toujours tenir ce jeudi. Camille Gros-Didier.
Les deux parties ont convenu mercredi de prolonger de 5 jours la trêve pour donner le temps aux négociations indirectes sous médiation égyptienne d'aboutir à un accord durable qui mettrait fin au conflit. Juste après l'annonce de ce nouveau cessez-le-feu, Israël a déclaré que des roquettes ont été tirées depuis Gaza et que son aviation a procédé à des frappes aériennes. Les affrontements ont cessé avant l'aube jeudi, sans qu'on signale 2 victimes. Depuis le début des violences en juillet, environ 1950 Palestiniens ont été tués, en majorité des civils. 67 Israéliens sont morts, pour la plupart des soldats. Le Hamas exige qu'Israël lève le blocus sur la bande de Gaza imposé il y a 8 ans. Israël veut que le Hamas se désarme complètement.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Nicolas Pinault. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission.
Nous vous en parlions dans le journal. À Conakry, Alpha Condé a déclaré l'urgence sanitaire nationale pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays depuis le début de l'année. Morgane, la fièvre hémorragique a déjà fait plus de 350 morts en Guinée.
Désormais, les autorités du pays entendent renforcer des mesures de contrôle sanitaire au niveau des frontières. Zakaria Camara est le correspondant de La Voix de l'Amérique sur place. Voici son reportage.
Selon la présidence de la République, il s'agit d'une déclaration d'urgence sanitaire nationale. Il est apparu que la situation de la maladie est critique et menace la santé de nombreux pays dans le monde, a indiqué le président Alpha Condé à la télévision publique. Vu les dispositions relatives à la gestion de l'épidémie, je déclare l'urgence sanitaire nationale contre la maladie à virus Ebola en République de Guinée, a annoncé le président guinéen, dont la sortie est commentée dans la capitale.
Il est très important de décréter un état d'urgence, mais je pense bien qu'ils ont retardé d'abord. Ils devraient décréter l'état d'urgence avant les autres pays.
C'est pour pouvoir détecter les gens qui ont le virus à Ebola et ceux qui n'en ont pas. Et puis ça va donner davantage pour mieux contrôler la situation sur le terrain.
Quand tu prends la situation dans les autres pays qui ont décrété l'état d'urgence il y a longtemps, mais mieux vaut tard que jamais.
Le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Je pense que franchement, c'est pourquoi il a pris les mesures d'urgence, c'est pour vraiment freiner la propagation de cette maladie.
Que si vous avez vu jusqu'à présent, le président n'avait pas pris ces mesures-là. Ça, c'était en connaissance de cause. Parce qu'il y a les problèmes humanitaires, purement humanitaires.
Il a retardé parce que moi, mon propre entendement, il devait prendre les dispositions là depuis bien longtemps.
Le président guinéen a annoncé d'autres mesures dans le cadre de l'urgence sanitaire nationale. Désormais, il a institué un cordon sanitaire à tous les points frontaliers d'entrée en République de Guinée. Les mouvements de personnes sont restreints et soumis aux mesures de contrôle aux différents points de passage terrestre, maritime et aéroportuaire. Ces mesures concernent également des personnes faisant partie des contacts avec des malades. Il aurait formellement interdit de se déplacer hors de leur zone de résidence jusqu'à la fin de leur période de surveillance. Au total, 9 mesures sont annoncées par le président Condé pour lutter contre Ebola en Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Autre regard ce soir face à la crise de l'Ebola, Nicolas.
Au Niger, où l'on multiplie les mesures de prévention pour éviter que le virus n'arrive dans le pays, c'est ce que nous explique à Niamey notre correspondant Abdoulrazak Idrissa.
Les premières mesures ont consisté à une recherche d'informations sur la maladie par les autorités sanitaires du pays. Elles ont été suivies par la mise en place d'une stratégie de riposte. La phase de communication pour les comportements à adopter est également lancée. Et sur le terrain, les frontières notamment, des équipes de contrôle ont été mises sur pied. Manu Agali, ministre de la Santé publique.
Présentement, nous sommes à l'aéroport international de Ruhamani où nous avons visité les équipes. Il faut comprendre ici qu'il y a l'équipe qui prend en charge le passager dès leur arrivée, qui fait le contrôle. Et dès qu'il y a un cas suspect, ce cas est pris en charge par une autre équipe. L'équipe de prise en charge transfère les cas suspects dans un site d'isolement. Et c'est là-bas que les traitements seront faits. Aucun cas suspect ne sera transféré dans nos formations sanitaires existantes.
À l'aéroport de Niamey, l'équipe se plaint toutefois du manque d'un local approprié pour travailler.
En fait, les équipes sont là, les locaux ne sont pas suffisants. Il faut trouver une solution d'urgence. Et tant que c'est que vous dites qu'on construise des locaux propres à tous ces services-là. Ouais. Voilà, je vais
dire. Et aussi certains matériels, comme l'eau de Javel et le savon, on n'a pas encore eu.
Il a dit qu'il a besoin de nous.
Non, on n'a pas eu ça.
Les mêmes dispositifs ont été prévus à tous les postes frontaliers et la situation est gérée sur l'ensemble du territoire. Le médiateur de la République, chargé de veiller au bon fonctionnement des services de l'administration du pays, est parti pour vérifier les 10 dispositifs mis en place et Chefou Amadou s'est dit satisfait.
Je suis venu m'enquérir des procédures mises en œuvre à l'aéroport, à la frontière donc aérienne, par les services publics, par le ministère de la Santé. J'ai observé que des mesures sont prises avec les équipements nécessaires pour traiter les malades, les passagers lorsqu'ils arrivent à l'aéroport. Quelques équipements sont encore nécessaires, tels que les équipements de prise de température, mais déjà tout le monde est mobilisé et je crois que nous pouvons nous assurer, nous tranquilliser en ce qui concerne la frontière à l'aéroport.
Jusqu'ici, le Niger n'a enregistré aucun cas, même suspect, de la dite maladie, mais les autorités renforcent la vigilance. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
On reste en Afrique de l'Ouest où le hijab semble mis à l'index dans le nord du Nigeria. Cette tenue arborée par les femmes de confession musulmane est devenue suspecte depuis que des femmes kamikazes l'ont utilisée pour cacher leurs bombes. Jean Akano, où le phénomène bat son plein, notre correspondant Adamou Aboubakar Warzo témoigne.
On avait eu arrêté plus de 3 femmes la semaine passée à Kano qui portaient hijab avec des missiles. Donc, là, à Kano, dans la capitale économique du nord du Nigeria, toutes les femmes souvent qui portent hijab au marché. Donc, les gens se méfiaient d'eux, ils sont humiliés. Donc, maintenant, même dans les universités, dans les instituts, dans des écoles, donc il faut investiguer les femmes qui portent hijab. Dans le passé, si vous vous rappelez, les femmes qui portaient hijab sont respectées, ils ne sont pas humiliées. Mais maintenant, quand je dis de la situation du nord du Nigeria, comme des femmes maintenant sont des kamikazes, donc ça fait peur qu'ils sont un peu humiliés. Donc, pas seulement à Kano, un peu partout dans le nord du Nigeria.
Est-ce que ça met à mal la cohésion sociale? Est-ce qu'il y a un problème de cohabitation maintenant?
La cohabitation, elle est très difficile maintenant. C'est très dur. Donc, les femmes ne sont plus à l'aise avec un hijab comme dans le passé, comme c'est une ouverture religieuse qui les permet de porter hijab. Maintenant, ça les donne des maux de tête parce que maintenant, il y a d'autres filles qui ne portent plus hijab pour la sécurité ou pour être à l'aise dans l'activité sociale.
Quelle est la réaction de la communauté musulmane au niveau de la hiérarchie?
Cheikh Aminu Daourawa, le leader de Hizbah de Kano, il a condamné cet acte en soulignant qu'on ne peut pas dire que toutes les femmes sont des kamikazes. Donc, celles qui sont des kamikazes sont des kamikazes, d'autres ne sont pas des kamikazes. Donc, il faut qu'on raisonne. On ne peut pas seulement imaginer que toutes les femmes du nord du Nigeria sont des kamikazes. Donc, il a demandé à la population de les traiter avec une manière respectueuse, pas d'une manière violente. Donc, c'est ce qu'il avait souligné.
Que font les autorités pour ramener les choses dans l'ordre?
Oui, mais les autorités font de l'ordre. Mieux, parce que si vous voyez maintenant dans les écoles, il y a de la sécurité, dans les marchés, il y a la sécurité. Donc un peu partout, il y a la sécurité, il y a plus, il y a des investigations. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu es investigué avant de rentrer à l'école ou au marché.
Le correspondant de La Voix de l'Amérique à Kano, Adamou Aboubakar Guarzo, il était joint par Jean-Roger Billon. Allez Morgane, parlons à présent de la cybercriminalité, un phénomène bien connu sur le continent, notamment de la jeunesse.
La Côte d'Ivoire attire particulièrement l'attention des spécialistes du secteur. Pour un éclairage, Sarah Diaby a joint Vladimir Hamon, spécialiste de cybercriminalité en Côte d'Ivoire.
On peut considérer que la cybercriminalité en Côte d'Ivoire a atteint des proportions très grandes, on dirait même alarmantes, donc depuis 2006, au point où la Côte d'Ivoire est malheureusement citée comme l'un des pôles les plus actifs en termes de cybercriminalité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le phénomène a commencé de façon très graduelle, donc avec une importation du phénomène qui est né entre griffes dans des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Et ce phénomène-là a été importé en Côte d'Ivoire. Et les conditions sociopolitiques militaires de l'époque ont aidé à l'éclosion de ce phénomène-là auprès d'une jeunesse qui était à la recherche de repères.
Comment la cybercriminalité se manifeste?
Donc la taxonomie de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire est essentiellement articulée autour d'actes de cyber-escroquerie. Donc ce sont des jeunes qui vont trouver des stratagèmes pour réussir à se créer une vie via Internet. Donc pour les uns, ils se feront passer pour une femme en créant des faux profils, en utilisant des photos UGP et qui vont entrer en relation en pseudo-relation amoureuse avec leur victime, et puis de là vont naître les différents abus. Ce sera par exemple de demander de l'argent pour se faire payer le billet d'avion et rejoindre son prétendu amoureux ou sa prétendue amoureuse. Donc les stratagèmes peuvent varier en fonction de l'état de créativité du cybercriminel. C'est vraiment réussir à jouer sur les codes sensibles en utilisant la manipulation psychologique que ces jeunes-là réussissent leur coup pour la plupart. Maintenant, après, il est à noter qu'il y a des actes de cybercriminalité techniques qui sont en train de voir progressivement le jour, notamment via les détournements de transferts par mobile money, des attaques informatiques spécifiques, donc le défacement des sites web et puis les intrusions dans les systèmes informatiques, mais qui sont pour l'heure, on va dire, très minoritaires.
Que fait le gouvernement ivoirien pour freiner le phénomène?
Il y a des efforts considérables qui ont été menés par l'État ivoirien pour lutter contre la cybercriminalité, notamment sur le plan organisationnel, donc notamment une direction de la police scientifique qui a charge les infractions liées au numérique. Vous avez également un CERT, donc qui est une équipe de réponse aux incidents informatiques qui est portée par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, donc la RTCI. Et vous avez comme fer de lance une plateforme collaborative donc, qui réunit des spécialistes de l'autorité de régulation et des agents, des fonctionnaires de police qui est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Il y a également des textes de loi qui ont été pris.
Ces actions ont-elles porté leurs fruits?
Oui, des résultats notables même ont été obtenus. On peut considérer que c'est très insignifiant vu le volume d'activité énorme qui est entre griffes de mise en Côte d'Ivoire. Mais de 2012 jusqu'à 2013, donc sur ces deux années-là, il y a déjà plus de 200 personnes qui ont été interpellées et déférées devant le parquet pour des affaires de cybercriminalité.
Voilà, c'était Vladimir Hamon, spécialiste de cybercriminalité, joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
On passe au sport dans cette émission. Bagassikoura, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, on sort les crocs, on parle de football. Luis Suarez a été autorisé à s'entraîner, mais sa suspension reste maintenue.
Oui, la FIFA dit avoir pris note de la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a maintenu ce jeudi la sanction de Luis Suarez, mais l'a autorisé à s'entraîner. Et donc, a commencé ce vendredi, il s'entraînera aux côtés du FC Barcelone, mais le TAS a maintenu, comme je le disais, la majorité des sanctions imposées à l'origine par la commission de discipline de la FIFA. Suarez a été suspendu 4 mois de toute activité liée au football pour avoir, Nicolas, mordu un adversaire au Mondial 2014.
Et cette suspension hein, qui restera jusqu'au 24 octobre. Bagassi, on connaît le nom des finalistes pour le prix du meilleur joueur UEFA 2013-2014.
Oui, le gardien des champions du monde allemand Manuel Neuer, les attaquants néerlandais Robben et portugais Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes du prix du meilleur joueur UEFA de la saison 2013-2014. Le vainqueur qui sera désigné le 28 août en marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions succédera au français Franck Ribéry qui a raccroché sa carrière internationale hier. C'est la 4e édition de ce prix, créé à l'initiative de votre compatriote Nicolas Michel Platini, dont le vainqueur sera donc élu par vote d'un jury composé de journalistes issus des 54 fédérations européennes.
Parlons du club du FC Valence, c'est en Espagne.
Oui, il s'agit du club donc qui a eu un nouveau propriétaire qui est un Singapourien, le milliardaire Peter Lim. Il est devenu donc propriétaire à l'issue donc de négociations, de plusieurs mois de négociations, un accord entre le club de Valence, les banques possédant une partie de l'équipe, et M. Lim lui-même qui a versé 140 millions d'euros.
C'est pas petit. Allez, on parle du championnat d'athlétisme en Afrique, à Marrakech, domination sud-africaine.
Oui, l'Afrique du Sud a bien négocié la 4e journée hier des 19e championnats d'Afrique d'athlétisme en décrochant le titre suprême à la perche et la longueur chez les hommes grâce à Shane Ram et Kotso Mokoena. L'Égyptien Mostafa Mohamed a confirmé sa suprématie au marteau en enlevant l'épreuve avec
un jet mesuré à 79 mètres. Chez les dames, Bagassi, on va parler d'un titre qui vous fait plaisir pour votre pays.
Oui, il s'agit de Marthe Kouala qui a décroché l'or en
heptathlon. c'est pas facile. Et puis on va parler du championnat d'Europe d'athlétisme, puisque le franco-borkenabé Benjamin Compaoré est devenu le nouveau champion d'Europe du triple saut jeudi à Zurich. Il a réussi sa victoire avec une marque de 17,46 m dès son premier essai. C'est le grand titre de sa carrière. Merci beaucoup, Bagassi.
Allez, on termine en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. Nathalie Makoma a débuté sa carrière comme chanteuse principale du groupe Makoma, groupe de musique chrétienne. Avec ses frères et sœurs, elle sort son premier album solo On Faith, paru en 2002. Elle sera notre invitée dans RM Show ce soir. On écoute Ezali Mawa.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec et Nicolas Pinault. À demain.